sommes sur Aligre FM 93.1. On est mardi matin et ce matin, c'est une émission totalement exceptionnelle. Vous savez qu'on vit un moment assez mouvementé, qu'il y a des problèmes de financement à Aligre FM. Donc on ne sait pas toujours si les émissions vont avoir lieu ou pas. Et donc j'ai décidé ce matin de prendre totalement en charge l'émission et de parler d'un livre que j'ai publié à la fin de l'année dernière. Et pour ce faire, pour ne pas être tout seul, j'ai demandé à mon ami Loïc Konanski de venir me parler, de venir me poser des questions.
Bonjour.
Bonjour Loïc. Nous sommes donc deux dans le studio et derrière la vitre, il y a ce cher Gilles Brézard, pour lequel on milite pour qu'il puisse rester à vie à Aligre FM, mais c'est une cause difficile parce qu'il faut absolument qu'on rende de l'argent. Donc si vous voulez participer, allez sur la page d'accueil d'Aligre FM et vous verrez toutes les explications. Ils sont comment faire brûler sa carte de crédit grâce à PayPal pour sauver Aligre FM. Vous verrez tout. Et pour commencer, mon cher Gilles, est-ce que tu peux nous mettre le premier lien qu'il y a sur le document Word que je t'ai apporté sur ma clé USB, qui est le trailer du livre que Yannick Dangin-Lecomte a fait. Le petit trailer.
C'est le YouTube, c'est ça ?
Hein ?
C'est du YouTube ?
C'est pas du YouTube. Ah, c'est sur YouTube, oui, c'est du YouTube. Donc, je meuble. Voilà, alors c'est un livre qui est paru aux éditions Mediapop. Il fait 157 pages, il est illustré de photos et il raconte l'année 1982. C'est effectivement les premiers mots de la carte de couverture. Ça marche, trailer ? C'est parti. Moi, je suis brouillon, maladroit, caractériel, constamment humilié par mes propres insuffisances. On me fait réécrire mes textes 10 fois, 15 fois, 20 fois. Rien dans mes prose n'est jamais clair, harmonieux, élégant, racé. Je crachouille, je mordis, je baisse la tête, rougis, accablé par mes dissonances, mes provoques nullissimes, ma perpétuelle hâte d'en finir, de passer à autre chose. Tout se bouscule en moi et sur l'écran. Personne n'y est pour rien. C'est moi et moi seul qui suis ainsi mal fait et défait. Tout me frustre. Pour arriver à bosser, à rendre de temps en temps de la copie, je suis obligé de me prendre par surprise, de tout cracher très vite, de m'oublier et après, tu t'étonnes, ça te revient. À l'époque, pour moi qui étais moitié voyou, moitié moule marinière, c'était pas toujours facile. Mais dans l'ensemble, je survivais quand même. Tandis qu'à présent, j'assure plus une bille. Je mets des tickets dans le bus quand je quitte quelqu'un avec qui je viens de parler. Je m'en veux de ne pas lui en avoir laissé placer une. Je ne harcèle plus ni les chiens, ni les chats, ni les arbres, ni même les filles. Le soir, je ne sors plus. Et le jour, quand je sors, je rase les murs. Je baisse la tête, je rougis, je brûle, je bafouille. Mon Dieu, si ça continue comme ça, je vais bientôt aider les vieilles à traverser la rue, ouvrir un compte Facebook, poster des photos de chatons, faire des enfants, me marier, prendre un emploi fixe, habiter dans un HLM, porter un costume 3 pièces, acheter un téléphone portable, jouer au tiercé, aller voter, devenir vieux et même. Au secours, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vais-je finir comme tous ces vrais gens que jusqu'ici je regardais passer sans jamais comprendre ce qu'ils pouvaient bien faire dans la vie? Devenir adulte? Oh, mais pas ça. We'll be right back. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec Yannick Dangin-Lecomte. Mais en fait, le trailer du livre, c'est l'autre. Et celui-ci, c'était c'était l'écriture du précédent qui s'appelle Mon AVC. On va peut-être revenir un moment là-dessus. Mais là, on va écouter le trailer de L'année tous les baisers, toujours de Dangin, Yannick Lecomte. Vas-y, Gilles.
C'est pas pro, ça. C'est pas pro.
Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Ça marche pas. Bon, ben, quand ça marchera, on passera. Alors, à toi, Loïc.
Voilà, donc bonjour. Yves m'a demandé de venir le relancer, en fait, quoi. Voilà, donc en fait, j'ai connu Yves il y a très longtemps, à cette époque déjà, c'est-à-dire dans les années 80. Et je vais vous lire un passage du livre qui vient de sortir sur ces années-là. Chez Madame Suzanne, Loïc, l'homme à la petite moue tristounette, oxymore vivant, gaillard vif et tonique, tout autant que type mélancolique, angoissé et tassé sur lui-même, se ronge les ongles en mangeant les peaux. S'auto-dévore, déchiré qu'il est entre violence et renoncement. Pour lui, tout est psychologie et rapport de force. À peine t'aperçoit-il que déjà il se demande quelles sont tes failles. Ça, c'est un truc de paranoïaque, quoi. Il veut s'élever au-dessus de sa condition, comprendre, réussir à s'en sortir tout autant qu'il désire échouer et qui, outre qu'il reste en permanence attentif à ce qui se passe, se détache des autres habitués de chez Madame Suzanne, en ce qu'il est le seul possédant une vision positive de mon incontestable addiction à l'objet livre. Il semble croire, idée ô combien bizarre, que l'univers possède un sens caché et que si on lit beaucoup, ce sens, on peut finir par le trouver. Il cohabite avec l'oiseau, qui est juste complètement dingue, a séjourné plusieurs fois en HP, sans vente, et touche une allocation P3. Voilà, j'ai traîné jusqu'à l'oiseau, parce que c'était, pour le citer, mon ami l'oiseau, que ça doit faire 30 ans que j'ai pas vu. Voilà, voilà. Alors donc, Yves, c'est gentil comme description, je suis ravi. Et je crois que c'est vraiment sympa d'être venu, quoi, hein, te relancer. Voilà. Donc, c'était des années un peu terrible, hein. Je m'en rappelle de toi, là, à cette époque-là. Je vais vous donner une petite idée aussi de l'ambiance à l'époque, très vite. Ambiance, surtout Yves, moi, j'étais quand même assez clean. Et puis, je me range pas les peaux, moi, je me suis jamais rangé les ongles. Donc, là, il y a quand même une erreur historique. Alors, au Chevalier du Temple, ça, c'était un grand bar qui était au coin de la rue des Rosiers et de la rue du Temple. Non, pas du Temple, mais...
J'ai du Temple.
Voilà. Au Chevalier du Temple, avec Laurence, une dernière bière. Et après avoir dégueulé dans la rue, l'effondrement final au bureau. C'est comme cela que, dans ma tête, j'appelle ma piole. La honte chasse l'angoisse. À peine éveillé, je veux les retrouver. Dans mon corps, le froid de la mort. Ce qu'il est lugubre, dit Micha en parlant de moi. L'estime ostentatoire que me porte Patrick Loiseau me gêne. Fuyons. Voilà, ça c'était l'ambiance parfaite à l'époque chez Suzanne.
Oui. Tu as retrouvé le trailer ? On peut écouter le trailer, alors. L'année de tous les baisers, prise 4. En 1982, au pouvoir depuis un an, cherchant à supprimer le plus grand nombre possible de chômeurs des listes de la NPE, les socialistes créent des stages d'insertion sociale et professionnelle. Notre héros a 33 ans et va travailler dans l'un de ceux-ci. Cela sera son année christique, année entièrement passée en banlieue parisienne, chez les relégués, les abandonnés de la République, et elle sonnera à la fin de sa jeunesse. En compensation, à côté de ce travail âpre et difficile, il y a sa vie nocturne, rue des Archives à Paris, où il habite. Champaïen, expression d'une sensualité toute naïve, des excès à n'en plus finir, l'aura du provocateur. Un régime alimentaire assez simple, des Henken et des Henken. Des corps, soupirer, gémir, lécher, goûter à toutes les peaux. Sautiller, mendier, gambader, mourir et renaître. Aimer à nouveau. Et ainsi donc, pour lui, 1982 fut à la fois l'année de tous les espoirs, de tous les dangers et celle de toutes les tendresses. Et donc, voilà, c'était le trailer fait par Yannick Dangin-Lecomte. Merci à toi, Yannick. Et quand Loïc, quand j'ai dit à Loïc, est-ce que tu veux venir me relancer pour que je sois pas tout seul pour l'émission, il m'a dit, ce livre-là, il est un peu bâclé. Et je me suis dit, tiens, c'est un compliment qui est tout à fait paradoxal. Parce que le précédent que j'ai écrit, qui s'appelle Mon AVC, était extrêmement chiadé, était extrêmement travaillé. C'était des textes que j'avais expérimentés dans des performances en public. C'était des petits paragraphes qui venaient de partout. Et j'étais invité au Salon du Livre à Nancy. Et j'étais entre deux mecs, l'un qui avait survécu à deux cancers, deux leucémies, et l'autre qui vendait des romans policiers alsaciens, puisqu'on était dans l'Est. Et les types, ils ont vendu chacun 100 exemplaires de leur livre en deux jours. Et c'est très saoulant parce qu'on est assis. Il y a énormément de gens qui passent. On a une espèce de mal de mer. Et moi, j'arrivais pas du tout à communiquer sur mon livre. Il s'appelait « Mon AVC ». Et c'était une expérience extrêmement difficile. J'ai vendu 10 livres en 2 jours et je me suis aperçu que la carte de couverture, par exemple, était extrêmement vulgaire, qui avait chié et pissé, écrit sur la carte de couverture, et que ce livre était totalement illisible, en fait, que c'était un patchwork de dentelle. Et je me suis dit, mon prochain livre, je vais l'écrire très simplement. Je vais faire quelque chose de totalement linéaire. Je vais prendre une année de ma vie et je vais la raconter le plus simplement possible.
Non, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est ta vision de toi-même qui est bâclée, en fait.
Ah oui, alors ça peut être autre chose. Mais ça, c'est... Bon, ben, vas-y, alors, développe.
Et je suis étonné, en fait, du point de vue de gamin que tu as à ton âge vénérable encore sur toi-même. C'est assez drôle. C'est assez... t'as toujours un point de vue de gamin, quoi. Et c'est un peu de la santé aussi, en même temps, hein. Et je vais citer encore un, voilà, pour vous montrer l'ambiance de Tanray, comment il se voit à l'époque. C'est en fin de journée, Corinne, qui a les clés de l'appart du guet, débarque à l'impromptu et m'ordonne de me déshabiller et de continuer à bosser comme si de rien n'était. Ponce nue, m'ordonne-t-elle. Je m'exécute, me mets à walper et je ponce toute une longue, longue colonne, celle qui encadre la séparation en deux de la pièce, m'appliquant et ne pensant à rien. Je frotte et le papier de verre, me donnant par à coup des frissons, je bande. Elle ne pipe pas mot, ça dure, ça dure. Soudain, les yeux brillants et la bouche sèche, elle me couche par terre, enlève sa culotte et gardant ses bas et ses splendides hauts talons, me chevauche. Lumineuse, ces splendides hauts talons me chevauchent. Lumineuse Amazone au look pré-raphaélite, mon temps a cru un petit félin sauvage. Là, c'est vraiment tes bonnes années, quoi. Hein, souvenir, hauts souvenirs, bonnes années.
Et alors, aussi, là, j'ai totalement échoué, c'est très marrant. Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à aller au bistrot à 16 ans, entre mes 16 et mes 19 ans, tout le monde faisait tout le temps référence à Henri Miller quand on me parlait et me disait « tu seras un jour Henri Miller ». Et peut-être que je parlais tout le temps de cul, j'ai un souvenir difficile de ces années-là. J'ai l'impression que j'étais extrêmement coincé, que j'étais très agressif, que j'étais relativement, alors là, franchement malheureux. Et je vois Henri Miller comme quelqu'un de viril, de puissant, et je me vois moi comme un petit mec efféminé, à la limite du, en tout cas socialement totalement impuissant, et un mec qui aboie mais qui mord pas. Et donc j'ai fait l'année de tous les baisers pour rendre hommage à Henri Miller. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai repris un livre d'Henri Miller, je l'ai ouvert, j'en ai lu 2-3 pages, et je me suis aperçu que je n'y comprenais rien, que ça m'intéressait plus du tout, que j'étais pas là-dedans, que je comprenais absolument rien aux propos d'Henri Miller. Mais donc je n'ai gardé que la moelle épinière, qui sont les histoires de sexe.
C'est un peu ce que j'ai ressenti avec ton bouquin, en fait.
Et cette année-là est très étrange, parce qu'en général, je suis monogame et je vis avec une seule femme et je ne suis pas du tout DSK. J'ai une vue sexuelle assez pépère, assez normale. Mais cette année-là était une année entre deux monogamies. J'avais vécu une grande histoire d'amour avec une fille qui m'avait jeté pour des histoires de fric. En fait, elle avait pris un studio et elle m'avait dit « Tu restes dans la chambre de bonne, je viendrai te voir quand j'aurai envie de baiser. » Donc je m'étais fâché et on s'était fâché et j'étais très malheureux.
Il faut acheter le livre, hein, parce que là, c'est pas la peine de raconter.
J'étais malheureux et j'étais en croix amoureux d'elle. Et donc je consommais un peu par désespoir, je cherchais la nouvelle âme sœur. Et donc ce que raconte ce livre, j'espère avec beaucoup de légèreté et de joie, c'est une année d'échange, c'est une année de consommation avec beaucoup d'excès et du travail en banlieue. Il y a toute cette dimension d'aller dans les Yvelines qui est quand même un moment dans ma vie qui est totalement exceptionnel. Alors,
moi, en fait, c'est là que j'ai pensé à Mort à Crédit, là, le côté initiatique du jeune Céline quand il est habité passage du Grand Serre, là, où et il allait travailler à Opéra, je crois, chez un horloger ou un bijoutier, je me rappelle plus. Et sa formation, quoi. Et donc là, t'étais déjà un homme tout à fait.
Bah oui, j'ai 32 ans.
T'es 32 ans, mais.
33, pardon.
On
33.
Sent l'ambiance un peu initiatique, un peu avec. Tu te trimbales en banlieue avec ce type-là. Et c'est quand même assez. Il y a un côté Mort à Crédit, quoi, qui est assez touchant, quoi, mais voilà.
Bon, alors je ne me reconnais pas du tout dans ce. D'ailleurs, c'est la même chose qu'avec Miller. Ce qui m'écrase dans Céline, quand j'ouvre Céline, c'est sa force de travail. C'est donc j'ai publié mon premier livre à 50 ans.
T'es pas gentil avec lui.
J'ai publié mon premier livre à 50 ans et la puissance de travail, le sacrifice de sa vie de Céline dans le travail.
Et c'est pour ça que je dis que ton livre il est bâclé. Parce que on sent pas le travail que Céline a mis dedans et c'est le résultat.
Alors c'est pour le meilleur et pour le pire. Peut-être que ce travail que Céline a mis dans ses livres va les rendre un jour illisibles. À part Le Voyage, qui était un livre inspiré, je pense qu'il y a des livres de Céline qui sont déjà d'accès très très difficiles, comme Guignol's Band. Alors il y a des fois il y a des réussites, comme Un château l'autre, mais j'aime évidemment beaucoup Céline. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais je ne me reconnais pas du tout là-dedans. C'est beaucoup plus. Je suis un hippie, c'est beaucoup plus pop. Et mes étudiants avaient tendance à me considérer comme étant punk. Mais un des fils conducteurs du livre et de mon existence, c'est la paresse. Et s'il y a quelque chose qui ne colle pas du tout avec Céline, c'est l'idée de la paresse, c'est l'idée de la sensualité. Céline est une espèce d'angoissé, c'est un voyeur, c'est un branleur, c'est quelqu'un qui a un rapport tout à fait staccanoviste à l'écriture.
Non mais toi, t'es pas un paresseux, t'as quelqu'un qui donne la paresse, qui a une idée de la paresse, voilà, donc il exécute son idée de la paresse, t'as le concept de la paresse, mais tu n'es pas un paresseux. Tu travailles beaucoup, tu peux pas t'empêcher de travailler. D'ailleurs, à l'âge que tu as, tu devrais arrêter de travailler et tu continues à travailler, à produire. T'es une machine, on peut pas t'arrêter.
Alors c'est bien ce travail, si tu veux, parce que si tu t'écoutes à l'âge que j'ai, tu meurs, quoi. C'est-à-dire que tu te décomposes complètement et il y a quelque chose, c'est un petit peu comme aller se promener, il y a quelque chose d'extrêmement... comment dire, sain au sens de Spinoza. Tu te refuses les passions mauvaises et comme tu as une passion, que tu exerces ta volonté et que tu as une passion joyeuse, ça te crée un soleil interne. Ça s'auto-alimente. Et là, je me suis remis à dessiner et c'est absolument fascinant de voir la vitesse à laquelle tu fais des progrès et comme ça t'auto-gratifie et c'est rien.
À ton prochain bouquin, c'est un bouquin de développement personnel. C'est là qu'il faut que tu donnes, Manon.
Alors, je suis très impressionné par le développement personnel qui a pris la place des rayons de philosophie dans les FNAC. Enfin, ça date d'il y a 20 ans maintenant, mais ça m'a mis une claque dans la figure. Et je voyais... Bon, il y a eu un seul article sur l'année Tous les baisers qui est paru dans un nouveau journal, Le Primitif, un nouveau mensuel. Et le type parle de ma naïveté politique, la naïveté politique de l'écrivain. Et il y a quelque chose dans cette naïveté, c'est effectivement, j'avais la volonté de paraître naïf, en là aussi, c'était bien le projet du livre, et j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là, et si je dois regretter quelque chose dans ce livre, c'est qu'il y a quand même, c'était plus fort que moi, il y a deux, trois trucs qui sont avec des noms propres, des références, tout ça, que j'aurais voulu éviter à tout prix.
Et pourquoi tu as mis les noms? C'est bizarre, parce que t'es pas flatteur, t'es même des fois méchant avec certaines personnes. Et pourquoi tu as gardé les noms? T'aurais pu changer les noms,
Alors ça aussi, c'est compliqué, c'est des choses que
c'est de la méchanceté inconsciente.
C'est quelque chose que je comprends pas moi-même. J'ai pas d'imagination, donc je n'écris pas des romans. Et ça m'est arrivé de transposer les noms, mais ça restait très, très lisible. Et en fait, je décris toujours l'existence. C'est-à-dire que j'ai créé un personnage picaresque qui a l'air d'être dans mes bottes, mais qui n'est pas moi, et qui se développe de livre en livre. Et je ne donne pas les noms. Par exemple, il y a un certain nombre de jeunes filles, disons une vingtaine de jeunes filles dans le livre, et je ne donne que leurs prénoms. Donc on ne peut pas savoir qui c'est.
Enfin, mais ceux qui les ont connus.
Mais sur mes livres précédents, il y a des gens qui m'ont reproché de dire du mal d'autres gens, et je n'ai pas ce sentiment. Alors ça doit faire partie de ma naïveté. J'ai l'impression que c'est une discussion qui est ouverte. Mais il faut voir aussi que j'étais très très morveux, et donc ça se manifeste de moins en moins, parce que comme je vieillis et que j'ai de moins en moins d'énergie et que j'ai de moins en moins de rapports sociaux, cette morve devient de plus en plus, elle a l'air de plus en plus artificielle. Mais ça fait partie de moi. J'étais extrêmement agressif, je pense, dans la vie de tous les jours.
Et oui,
c'est une part d'agressivité qui est restée.
Tout à fait. Malgré toutes les claques que tu t'es pris, quand même, t'es quand même assez. C'est du béton armé, le torré, hein, je vous le dis, moi. Et pourquoi les photos aussi? Alors, c'est fascinant parce que tu publies une photo sans arrêt sur des photos de toi. T'as gardé des photos de toute ta vie. J'ai l'impression que c'est classé et tout ça. Et t'arrêtes pas de publier des photos sur Facebook, des photos de toi, de ta jeunesse et tout ça. Et pourquoi? Et les photos dans ce livre aussi.
Alors là aussi, hein, ça fait partie. Tout ça, c'est un personnage assez étonnant. Je n'ai jamais possédé d'appareil photo. Je n'ai jamais demandé à personne de me prendre en photo.
Tu veux dire qu'il y a des paparazzis toujours autour de toi?
Non, j'étais très photogénique et j'ai fréquenté des gens qui faisaient de la photo. Et donc, on m'a toujours demandé de poser. Je sais pas, on m'a par exemple encore ces dernières années demandé de faire de la figuration dans des films. Il y a même des fois où j'ai travaillé en amont pour apprendre un texte, pour dire un texte, jouer un rôle. J'ai une espèce de physique auquel je m'identifie absolument pas du tout. J'ai une apparence qui appelle à être capturée. Et après, comme je crée un personnage, je joue avec ces images. Alors, pourquoi des photos dans l'année Tous les baisers? Je rencontre mon éditeur qui s'appelle Philippe Schweyer, que j'adore et que j'embrasse. Je le rencontre lors d'un interview. J'avais publié un livre, alors pas du tout sur moi, mais qui était une série de monographies sur des artistes qui s'appelle Portrait de l'artiste en révolté. Lui, il fait une revue gratuite, très luxueuse, dans le Grand Est, qui s'appelle Novo, et il m'interview sur ce livre. Et on fait un long interview d'une heure et demie sur le livre, sur Portrait de l'artiste en révolté, qui est publié à La Différence il y a 15 ans, je pense, maintenant. Enfin, en tout cas, sans doute 15 ans. Et donc, après, on se revoit et il me dit, tu veux pas faire un livre? Je lance une maison d'édition, j'ai publié 3-4 livres. Tu veux pas me faire un livre? Je dis oui, on va faire un livre ensemble. Et je fais un livre qui s'appelle Funky Boy, dans lequel il y a des textes que j'avais fait, que j'avais beaucoup travaillé, qui étaient des commandes par des gens très différents les uns des autres, et en général, des commandes payées. J'ai fait un texte pour un sculpteur suisse, j'ai fait l'ouverture du 104 à la rue d'Aubervilliers, dont j'avais fait un texte pour deux architectes. Il y a un texte que j'avais fait sur Philippe Cadic pour une revue, un numéro sur Philippe Cadic. On met tous ces textes là-dedans. Et Philippe me dit, est-ce que tu pourrais me donner tous les photomatons que tu as fait dans ta vie? Et je lui ai envoyé tous les photomatons que j'ai fait dans ma vie. Et avec son graphiste qui est absolument génial, qui est malheureusement décédé aujourd'hui d'un cancer, qui s'appelle Lionel Chili, on a fait un livre qui s'appelle Funky Boy et qui a très bien marché. C'est celui dans les livres qu'on a fait ensemble où il y avait le plus d'amour entre nous et qui s'est le mieux vendu et qui était le plus conforme à son objet, qui était très beaux-arts, parce que j'étais prof dans une école des beaux-arts, et ça se passe à Mulhouse, et donc c'est dans la ville dans laquelle j'étais. Et donc, quand on a fait le deuxième concerne la Belgique dans les années 60, c'est un roman sur les années 60, j'ai mis les photos de moi que j'avais quand j'étais petit. Le troisième était un livre sur l'école, qui raconte 25 ans de l'histoire d'une école des beaux-arts, dans lequel il n'y a pas de photos de moi. Le quatrième, c'est mon AVC, et le cinquième, c'est celui dont on est en train de parler.
Bien joué. Et alors, en fait, ce qui est fascinant chez toi, en fait, c'est quand même, tu mets pas ta mort, c'est ton narcissisme, cette fascination pour toi qui est au-delà de, qui est paradoxale, quoi, qui est, où tu creuses tout le négatif et tout ça. Il y a un côté qui m'a fait, maintenant, j'y pense maintenant, moi qui n'ai pas beaucoup de culture, ça me fait quand même penser à un côté, le type de narcissisme à la Genet, qui est irréductible, qui va profondément malgré tout, qui accepte tout et qui essaye d'en faire une certaine beauté, même de là du pire, quoi. Et il y a un côté de ça, d'entêtement, comme ça. Tu arrives au sublime, en fait. Enfin, il y a une tentation d'arriver au sublime, quelque part, non?
Alors, c'est amusant, là aussi. On n'aura pas le temps de vraiment creuser ces questions, mais je trouve que c'est absolument passionnant. Je ne me sens pas du tout narcissique. Je ne m'intéresse pas du tout à moi. Et j'ai fréquenté un mec qui m'a filé des photos, par exemple, que j'avais fréquenté pendant 40 ans. Dès qu'on rentrait dans un bistrot, il se regardait dans un miroir. Quand j'ai rencontré,
il était.
Je ne me suis jamais intéressé à mes vêtements. Je ne vais jamais chez le coiffeur. Je n'ai jamais fait attention à mon apparence physique.
Non, mais tu n'écris que sur toi.
Alors,
à peu près.
Je n'écris pas sur moi. Oui. En fait, j'écris sur un personnage que je connais bien. Et cette absence d'imagination m'oblige à travailler sur des choses que je connais bien. Et je trouve que c'est inépuisable. Ça m'intéresse beaucoup.
Yves Torret est inépuisable, et c'est vrai.
Je pense que c'est vrai de tous. Hein. C'est la conclusion des mots de Sartre, un homme comme les autres, etc. Et tous les hommes. Je pense qu'on peut prendre n'importe qui et que c'est très intéressant. Et effectivement, j'ai eu une enfance difficile. Je suis quelqu'un de résilient, donc j'ai quand même assez la pêche parce que c'était tellement difficile mon enfance que le fait d'y avoir survécu.
Dis trois mots quand même sur ton enfance.
Alors j'avais une mère prostituée, j'avais pas de père. Ma mère ne s'est pas occupée de moi. Elle me filé à mes grands-parents et j'étais à l'internat et je suis parti de chez moi, j'avais 16 ans.
Et t'as vécu dans le milieu aussi.
Ma mère a possédé des bordels, elle variait dans toute la hiérarchie de la prostitution. Des fois elle était patronne, des fois elle était pute entraîneuse, comme elle est belge, donc c'était la prostitution était autorisée. Mon beau-père était arménien, c'était un joueur de cartes professionnel qui tenait une table de poker, qui prenait le jeton. Donc j'ai vécu avec des gens qui étaient d'une grossièreté inouïe, que j'admirais énormément. Et donc, à 17 ans, quand je suis parti, je suis devenu hippie, et je n'ai jamais eu aucun rapport avec l'argent. J'ai toujours détesté la frime, les costumes, tout le... Et donc, je me suis refait une vie. J'ai été 5 ans à l'université. J'ai rencontré une Suissesse à Rome, où je vendais des peintures, comme on le fait ici à la place du théâtre, à la Piazza d'Espagne. Cette Suissesse m'a ramené chez elle. J'ai fait 5 ans d'université. Ouais. On peut avoir un morceau de musique, s'il te plaît.
Ça fait vraiment un long tunnel pour l'auditoire.
Oui, donc c'est temps-ray par temps-ray, c'est un peu long, je suis d'accord. Thank you.
Voilà. Avec ma grande gueule et mes refrains du type « à moi, on la fait pas », j'ai l'air fin. Aux Amandiers, à Ménilmontant, je me suis fait braquer tout le matos vidéo. Deux gardes, entre midi et deux, n'ayant même pas un livre avec moi, je me faisais copieusement chier quand trois mecs cool ont débarqué avec une bouteille de Gordon Jeans et six bouteilles de Schweppes fraîches. On dirait du Bukowski, là. Et là, franchement, on s'est bien marré. J'étais quasi à jeun, on buvait vite, ils riaient à la moindre de mes saillies, me racontaient leurs dernières frasques et autres embrouilles, me flattaient et soudain, il n'y a plus eu personne. Il s'était éclipsé, j'ai eu un brusque doute, je me suis retourné et tout avait disparu. Le cave que t'étais là, le magnétoscope, la télé, les boîtes et les copies des cassettes. Tout, absolument tout. Voilà, ça c'était dans une MJC, le travail de Yves, travailleur social, qui faisait le tour des MJC d'Île-de-France, et avec la grande époque de la vidéo en tant qu'outil d'émancipation sociale sous la gauche mitterrandienne.
Oui, donc Mitterrand vient de prendre le pouvoir, et je bosse pour un mec que j'appelle Navel dans le bouquin, et qui lui fait une exposition qui s'appelle Fou Voyou. Le mec arrive à trouver de l'argent dans des mairies pour faire une exposition qu'il vend comme étant de la prévention contre les drogues dures. Je bosse avec le mec, je bosse 12 heures par jour, 15 jours par mois, je gagne un saladier. C'est très très étrange, je monte l'expo avec lui, je démonte l'expo avec lui et j'ai un atelier d'écriture. Et le mec c'est un vidéaste. Et par exemple, le mec quand il a ce boulot, il se rachète son propre matériel de vidéo à lui-même. Il a une centaine de cassettes avec plein de films formidables, par exemple La Nouvelle École Anglaise ou des documentaires, tout ça, des trucs extrêmement violents, des mômes qui se sodomisent les uns les autres dans des internats, tout ça, et les zonards viennent et ils peuvent demander des cassettes à la demande et on fait des petites séances de cinéma avec une dizaine de ces zonards. Je fais moi un atelier d'écriture, et quelqu'un qui fait un atelier de théâtre, de maquillage, et quelqu'un qui fait un atelier de musique. C'est un très bon concept. C'est absolument inouï d'arriver à récupérer de l'argent en faisant ça, mais ça marche assez bien, c'est-à-dire qu'on fait une espèce d'animation mobile avec des moyens de fortune. Et ensuite, je suis à HR dans un énorme foyer de jeunes travailleurs qui est vraiment une très grosse structure. Et ces gens me disent, on va avoir les socialistes montent des stages d'insertion sociale et professionnelle à usage des illettrés. L'ANPE fait remplir des formulaires remarque qu'il y a un certain nombre de gens qui n'arrivent pas à écrire en français, qui n'arrivent pas à lire, et a décidé de les former à l'écriture et à la lecture, à des moyens élémentaires pour les remettre sur le marché du travail. Est-ce que ça t'intéresse? Et je dis oui, ça m'intéresse beaucoup. Et donc on me prend comme formateur dans ce stage et je reste 9 mois à HR dans ce stage d'insertion sociale et professionnelle. Je suis le sous-chef du stage et je suis un des encadrants. Et je vis là-bas, donc je me lève à 6h du matin, j'habite à la rue des Archives, je cours à la gare Saint-Lazare, je prends le train et ma journée commence à 9h là-bas. Je travaille 4 jours par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et le mercredi, je reste au lit à boire de la camomille. Parce que quand je rentre du boulot le soir, je suis tellement naze que je dors 1 heure. Et après, je sors et je vais chez Madame Suzanne où je retrouve mon ami Loïc qui est en face de moi et un certain nombre d'autres types, tous paumés comme nous. Voilà, c'était une jolie vie et une année exceptionnelle. À toi, Loïc.
Alors, Françoise à Ostende, elle souffre. Elle qui ne rêve que de romans au clair de lune et de longs baisers romantiques avec ma génitrice qui est l'être le plus trash et le plus sordide qu'on puisse imaginer. Et moi qui ne fais rien d'autre que de la sauter. Et ceci dans le grand et le plus authentique style NTM. Elle est servie. Heureusement pour elle et pour moi, ô grincement de dents, ô ironie, Pajac débarque à l'improviste. Alors ce Pajac, c'est qui? Dans ta vie, ça a été quelqu'un, là, je crois.
Bah, c'était mon principe de réalité, c'est le mec qui me faisait travailler, quoi. C'est le mec qui a toujours monté exactement comme ce Navel dont je parle. C'est le mec qui me téléphonait, qui me disait, voilà, j'ai fait un journal, j'ai fait une maison d'édition, j'ai fait ceci, cela, est-ce que tu veux bosser? Bah, je disais toujours oui, puisque je suis incapable, infoutu, de réinventer le monde moi-même, que je suis prêt sur tout ce qui est univers pratique, total. Totalement nul. Et donc ce mec m'a beaucoup employé, m'a beaucoup fait travailler. Je crois que j'ai travaillé dans une dizaine de ces journaux. J'ai encore écrit il y a 4-5 ans pour des gros livres qu'il fait. Il est devenu éditeur. Il édite les cahiers dessinés.
On peut dire que lui, il a réussi en fait.
Ah, lui, il a totalement réussi. Il a touché l'année passée le Goncourt de la biographie pour son livre de l'année passée. Il fait un livre par an. Il a touché le prix Médicis de l'essai. C'est un cas de réussite sociale formidable. Il a quitté Paris, vit à Arles avec son éditrice qui s'appelle Vera Michavski. Enfin, pas avec elle, mais il y a aussi l'ancienne ministre de la Culture là-bas, la dame d'Actes Sud. Donc on a à Arles une concentration aussi autour de la photo. On a un lieu culturel où ces gens sont
allés. À un moment, tu as eu vraiment la haine sur lui. Là. Tu as eu la haine. Tu as écrit le bouquin sur Joyce aussi.
En 2000, on a fait un livre ensemble et c'était extraordinaire parce que j'habitais dans un chalet à la montagne. Donc là aussi, je me levais tôt, je prenais un petit train, une crémaillère, après un grand train. Après, il y avait un bus, mais j'allais à pied chez lui parce que je me levais tôt pour arriver à l'heure et je bossais avec lui. Il habitait dans une très belle maison. Il vivait avec une jeune femme qui habitait dans la maison de ses parents. C'est une belle maison au bord du lac à Lausanne, vraiment un endroit magnifique, à Ouchy. Et tous les midis, il me faisait des pâtes à la sauce tomate et il changeait de forme de pâte tous les midis. Et il me sadisait littéralement. Et on avait un espèce de rapport sadomaso extrêmement stimulant qui m'amusait beaucoup. Il faisait beau, c'était en été. Et on a bossé pendant 2 mois et on a écrit ce livre. Et après, ce livre a été publié. Et malheureusement, contrairement à certains de ses autres livres, c'est un livre qui n'a pas marché de façon géniale. Ensuite, on a commencé la promotion. Et là, je me suis mal tenu. On était à la rue Daguerre avec un libraire qui faisait un magazine. Et à un moment, pendant le repas, je me suis levé pour aller vomir aux toilettes. J'avais trop bu et j'étais vraiment très désagréable. Et donc, Pajac m'a interdit de promotion. Et je l'ai très, très mal pris. Et donc, on s'est fâché, on s'est plus vu. Et il y a toutes mes frustrations qui ont ressorti. Je pense que j'avais totalement tort, que dans ce cas-là, c'est moi qui avais totalement tort. Et j'ai écrit un livre où je raconte une histoire de situationnisme qui s'appelle « Comment j'ai tué la troisième internationale situationniste » dans laquelle je maltraite.
Pour revenir à Pajac, c'est que je trouve que t'as une grande qualité, toi, c'est que tu encaisses, tu objectives bien les situations et tu les rationalises, tu les expliques et ça te laisse pas des grosses cicatrices, les humiliations que tu subis, en fait.
Il faut repartir de l'enfance, il faut partir de ce que j'appelle la résilience.
Voilà.
Je manque de sensibilité et d'empathie vis-à-vis
des
gens.
Ouais, c'est le béton, quoi.
Je suis blindé, quoi. C'est ce que Reich appelait le bunker caractériel.
Ouais.
J'ai un gros bunker caractériel, vraiment. Je m'en veux beaucoup, par exemple, de pas être sympa avec les chats. Il y a 2 chats dans mon appartement. Et je m'en veux de pas faire attention à eux. C'est vrai aussi des arbres, des plantes, de tout. Je voudrais vivre beaucoup plus en relation cosmique avec les gens et les choses. Mais je suis quand même enfermé dans une coquille.
Et t'as eu un autre copain aussi. On dérive un peu sur ta vie, finalement. Gros Claude.
Oui. Alors, j'ai pensé à lui ce matin. Il est dans un asile de gens HS, là, dans la campagne belge. Et je pense à lui de temps en temps. Il venait tous les ans en vacances chez nous. Et que voulais-tu dire du Gros Claude?
Ben, c'est un personnage aussi. T'as jamais écrit sur lui?
Alors si, j'ai écrit un roman policier entier où il...
Alors Gros Claude, c'est un mec qui fait, je sais pas, 1m90, il doit faire pas loin de 100 kilos, enfin quand 120. Je l'ai connu, 120 kilos, qui faisait de la gonflette et tout ça,
voilà.
gentil, très lent d'esprit, un mec très bizarre, c'est un personnage de BD en fait, quoi. Hein.
Alors c'est plutôt, si vous avez lu Des souris et des hommes de Steinbeck, c'est un peu le rapport qu'on avait, mec est tombé amoureux de moi quand je suis arrivé au bistrot à 16 ans, et donc il volait, il cassait les voitures, il descendait de chez lui et il volait dans les voitures. Et donc quand il arrivait au bistrot, il m'offrait 1 kilo d'orange, une boîte de cigares, le journal du jour. On avait un jour, je faisais le guet pour lui et il vole dans une voiture un attaché-caisse. Et donc on tourne derrière le coin, il ouvre l'attaché-caisse, je regarde, il y a un billet d'avion pour la Tunisie. Je dis, c'est un étudiant tunisien, tu peux pas voler ce billet, tu dois le ramener dans la voiture. Donc il referme l'attaché-caisse, il retourne dans la voiture, et il remet l'attaché-caisse dans la voiture. C'est ce genre de rapport qu'on avait. Et après, je suis parti en Suisse et je l'ai fait venir en Suisse. J'avais trouvé pour lui une place de... Il y avait la drogue, comme partout, il y avait la poudre dans un bistrot. Et je voyais que le patron n'arrivait pas bien à s'en sortir. Et j'ai dit, je connais un professionnel, c'est un videur professionnel, il va te faire un portier formidable. Si tu veux, je le fais venir. Tu le payes, tu le loges, ça sera bien, quoi. Et il m'a dit d'accord. Et donc, j'ai téléphoné au gros Claude et je lui ai dit, viens. Et il est arrivé une année plus tard. Le bistrot était fermé. Il avait été muré, voilà, par les flics. Et donc, il a vécu en Suisse pendant 4-5 ans. Et un jour où il était sous, il est allé voler une paire de chaussures dans un magasin. Et il a oublié une de ses anciennes chaussures dans le magasin. Il est retourné les chercher et les flics l'ont arrêté. Ils étaient 6 et il s'est battu avec les flics. Donc, il s'est fait expulser de la Suisse après s'être battu avec les flics. C'est un personnage assez picaresque.
Voilà, c'est les amis c'est, de...
C'est, voilà, c'est la vie picaresque de Yves Tanret.
Voilà, voilà, voilà. Donc, il y a du Cervantes là-dedans aussi.
Alors, j'écris deux romans policiers et pour le deuxième, on a beaucoup travaillé sur les picaros, là. Mais bon, c'est plus d'époque. Je suis en train de réécrire le troisième et je me rends compte que, imaginez par exemple un bistrot, même comme Madame Suzanne, avec des rapports fraternels, avec un certain nombre de mecs qui, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a quand même de l'entraide, il se passe quand même quelque chose.
C'est humain, c'est un lieu humain.
Il y avait quand même, on se reconnaissait les uns les autres, on avait besoin les uns des autres et on admettait ce besoin. Et j'ai l'impression aujourd'hui que c'est même plus possible que la solitude a fait énormément de progrès. La dureté.
Non, on a chacun nos smartphones, c'est sympa.
La dématérialisation a gagné beaucoup de choses. C'est que l'époque est... Mon livre paraît naïf parce que c'est l'époque en fait qui était naïve. Les problèmes qu'on avait étaient des problèmes insignifiants par rapport aux problèmes que les gens ont maintenant. Et cette grande tragédie des Gilets jaunes, par exemple, était très impressionnante.
Quelle perspective sens-là. Yves débouche sur les Gilets jaunes. Très bien, très bien.
Allez, donc, ouais.
Alors, et en fait, on en voit quelque chose peut-être là.
Oui, tu peux nous mettre un morceau de musique, s'il te plaît, Gilles.
Doucement, jeunes gens, doucement. Ils viendront par les murs, ils viendront par les plafonds. Non, BBC, énergie, Moïse, ils savent prescrire et interdire. Pas suggérer, pas saler l'hackathon. Herzog et de Meuron, recycler, intégrer, désintégrer, bouillon, bouillon, bouillon. Démolir, réfléchir, réfléchir. Venturi, Tchoumi, guéri. Orné, communiqué, signé. Remcolas, Remcolas, Remcolas. Régulé, dérégulé, s'auto-régulé. Frank Lobright, Frank Lobright. Packaging, bardage, parement. Capotage, maquette, numérique, showroom. Rotation, extrusion, déplacement. Adapté et réadapté, conditionné, air et gens. J'ai la patience d'un vieux targui attendant la pluie. Le Corbusier, Avichy, Edouard François, Champigny. J'ai une main baissée, bâtard d'avatar, Le Corbusier à Chandigarh. J'ai une main levée, doucement, jeunes gens, doucement. Où sont-ils tous partis? Où sont-ils tous partis? Prisque Price, 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 Prisque Price. Architecte, c'est high tech. Architecte, c'est médiathèque. Doucement, jeunes gens, doucement. Ils viendront par les murs, ils viendront par les plafonds. Ils seront gaz, ils seront nuages. Ils seront des essaims, ils seront des nuées. Force fragmentée, diffuse, désordonnée. Doucement, jeunes gens, doucement. Frappe chirurgicale, fractale, réseau. Bourdonnement bruyant, nœud furtif. Leurs grenades incapacitantes glisseront l'espace. Doucement, jeunes gens, doucement. Attachez bien vos foulards. Sortez les fronts. Pensez à la dernière barricade. Doucement, jeunes gens, doucement. Sonnez le clairon, branchez vos GPS. Coupez les citrons. Doucement, jeunes gens, doucement.
Ouvrez les bouteilles, versez les sons, tassez les chiffons. Doucement, jeunes gens, doucement. Entrez dans le bouillon, cherchez la transe. Doucement, jeunes gens, doucement. Fermez vos blousons, remontez vos capuchons. Rongez vos galeries, vos tunnels de surface. Choc, stupeur, paralysie. Multipliez les passages. Images thermiques, radars, ondes à spectre large. Infistez, infiltrez, supertissez. Passe muraille, brèche des combres. Commet toute distinction. Bulldozer, cravate, pas de prédétermination. Doucement, jeunes gens, doucement. La ville est flexible, allez à mouvement. Résilience, mimétisme, foyer de résistance. Asymétrie, déséquilibre, capteur dynamique. Espace trié, périmètre de sécurité. Doxa fossile. Doucement, jeunes gens, doucement. Image contre image, mot contre mot. Dérivé sans fin. Presque price. La tension monte. L'espace est plein de criers de matons. Tout groupement de plus de 4 personnes est interdit. 7 barrages sont mis en place dans l'après-midi.
Bon, voilà, voilà Yves, là, quand même, c'est moi, je connaissais pas ce truc-là, c'est vachement bien, ça.
On a fait plein de trucs comme ça, mais ils sont venus me chercher à Mulhouse pour faire une radio. C'était Mulhouse Note Expérimentale, ça existe toujours. Et je salue Christophe Schaub, qui est l'équivalent de Gilles Brézard à Mulhouse. C'était mon ingé son avec qui on a beaucoup bossé, et on s'amusait bien, et on faisait des trucs très poussés, pour personne. Ça, c'est l'histoire de ma vie. La radio MNE, ça devait être écouté par 15 personnes. Donc, on faisait des trucs comme ça, hyper sophistiqués, qui étaient diffusés à la radio. J'avais pris 2 heures par semaine, c'est énorme. Et je faisais 1 heure d'interview et 1 heure de création. Et 1 heure de création par semaine, il faut vraiment bosser comme un dingue, quoi, pour personne. Alors ça, c'est aussi le grand mystère. Si je dois être malheureux sur quelque chose, c'est ça, quoi. C'est que je vends peu de livres, que j'ai fait plein de trucs et que c'est nulle part, quoi. Je sais pas faire. À toi.
À moi, et là tu me surprends, lance-moi.
Lance-moi.
Alors, 18e siècle, 41, j'ai noté la page 41, je trouvais que ça fait 18e. Huguette, ses parents sont surmuets et elle s'investit beaucoup là-dedans. Il y a une rue de l'abbé de l'Épée en face du jardin du Luxembourg, m'apprend-elle. Et cet abbé a inventé au XVIIIe siècle un langage des signes. À l'université, j'ai moi-même pas mal travaillé sur l'esthétique au XVIIIe siècle, et cela nous permet de tracer des parallèles inattendus et surprenants. Voilà. Donc ça, c'est toute ta vie. T'as un côté super point, enfin assez cultivé, on peut dire, et un côté carrément très glauque, quoi, bas-fond, quoi.
Ouais, c'est très bizarre. C'est une espèce de problématique. J'avais demandé à Alain Marilio, le garçon avec lequel j'écris mes romans policiers, de venir aussi, mais il ne pouvait pas ce matin. Puis je lui ai demandé quelles questions il me poserait. Et il voulait me poser une question sur le fait que je dise dans la première phrase que je suis un glandeur et que dans la 10e phrase du livre, je dis « je travaille beaucoup ». Et ça reste très ouvert et je pense que c'est une question de légitimité. Si t'as pas été aimé par tes parents, si on t'a pas donné, si on t'a pas adoubé comme étant un petit seigneur de départ... Tu sais jamais qui tu es, et t'es tout le temps en train de tâtonner. Et tu fais les choses quand même, mais t'es pas sûr de toi. T'es pas le mec qui invente l'outil. Tu utilises l'outil, tu dessines, mais t'as pas appris à dessiner. T'écris, mais t'as pas appris à écrire.
C'est pour ça que t'avais une grande gueule. C'est pour ça que t'as toujours eu une grande gueule.
C'est comme pour ça que j'étais un morveux et que j'aboyais.
Très énervant.
C'est parce que j'étais pas sûr de moi. Et il y a eu des phases parce que avant d'aller à l'université, quand j'étais autodidacte, là, j'étais complètement fou et je sais pas comment j'ai fait pour pas me faire casser la gueule toutes les 5 minutes.
Et à l'université, t'as frayé avec Bourdieu.
Après, alors, je suis venu à Paris pour faire un doctorat avec Bourdieu et j'ai tenu qu'une année parce que j'avais pas d'argent du tout et que c'était quand même compliqué de, je n'arrêtais pas pendant le séminaire de Bourdieu de me demander si j'allais manger mon croissant, mon chausson aux pommes avant, pendant ou après. Je crevais de faim littéralement, donc j'étais pas dans des conditions, mais j'ai fait une année avec Bourdieu et ça c'est, il m'aimait beaucoup, j'étais chiant comme la mort. J'agressais tout le monde tout le temps, il trouvait ça très sympathique, il aimait bien, cette espèce d'électron libre. Et il soutenait en général mes interventions, c'est assez marrant. On a eu un très bon rapport. Je veux dire, j'avais un piston qui était très bon. Mon prof d'université, qui s'appelle Enrico Castelnuovo, c'est un grand historien d'art italien, était très copain avec Bourdieu. Et donc j'avais déjà vu Bourdieu à Genève lors d'un colloque, donc ça s'est très bien passé. Mais ce rapport à la reconnaissance, Je me vois comme un marginal, en fait. Donc, je suis resté à la marge.
Tu l'es.
Voilà. Donc, je suis resté à la marge et je fais des livres de marginaux. Et j'essaye de faire ça avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de fraîcheur, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de naïveté. Et bon, ben voilà. Donc, je suis en train d'écrire le suivant. Et puis, je dessine et ça va.
Sur quoi, le suivant?
Alors, je suis en train... on avait écrit un roman policier pour La Différence, et La Différence a fait faillite, et puis ils ont vendu le fonds de peinture qu'ils avaient, et donc ils sont plus en faillite, donc je réécris le troisième volume de ce roman policier, et j'essaie d'y mettre, justement, les gilets jaunes, de mettre du social dedans, et notre idée de Picaro, elle tient très très mal, les mecs se rencontrent dans un bistrot, le pitch est formidable, le pitch c'est un mec est parti de chez lui, et sa femme vient le rechercher, parce que leur fille est rentrée dans l'entreprise, et c'est une entreprise de méchants, c'est une entreprise de maître du monde. Mmh. Et la mère de famille vient demander au père de famille de sortir la fille de l'entreprise. Ça, c'est le pitch.
D'une start-up, en fait.
C'est une entreprise de lobbying. C'est une grosse entreprise d'avocats. Mmh. Elle fait des études de droit et c'est dans le cadre de sa formation et elle est chez les méchants méchants. Et donc, elle vient chercher son alcoolique de mari qui vit dans un bouge.
C'est un peu Joker, quoi, le Joker qui vient de sortir.
C'est
là,
bien.
Qu'il a pas vu,
ça a beaucoup plu à ma famille, là, ce Joker. Je l'ai vu en streaming, là. Mmh. Et c'est vraiment impressionnant. Mais donc, là, il y a encore un groupe de gens dans notre roman policier, alors que Joker, il est vraiment tout seul.
Oui.
Mais donc, je veux écrire Joker. Oui, donc, c'est vraiment d'époque. Alors, on ressent tous la même chose. Et j'ai très, très mal avec cette histoire qui est plus de moineaux en ville, avec ces... Ils nous cantonnent dans l'impuissance, quoi, sur ce continent de matière plastique qui vogue sur les océans, me fait souffrir, me troue le cul. Les gilets jaunes m'ont fait énormément souffrir dans l'impossibilité totale que j'avais de les aimer, de participer, d'être avec eux, d'espèces de beaufitudes qui débarquaient, j'avais envie de les crucifier sur les maréchaux, et puis en même temps, je suis obligé d'être solidaire avec eux, j'ai été manifester une fois avec eux, il faisait très très froid, c'était en février, et c'était très très étrange, quoi, ces gens, le caddie le samedi après-midi dans une grande surface, quand j'habitais à la rue des Archives, ce que je raconte dans l'année de Tous les baisers, j'ai un souvenir qui m'est revenu, j'étais pote avec un mec qui vendait très peu de fruits et de légumes sous une porte cochère très chère, le mec
il y a pas de porte très chère,
le truc qui fait un truc de luxe, quoi. Et je lui ai acheté des pommes, une pomme, et il me disait, mais va dans une grande surface acheter ta pomme. Mais j'allais jamais dans les grandes surfaces. Ça faisait partie de ma vie de pas aller dans une grande...
Qu'il y avait le Azeco à l'époque, voilà, ouvert 24 heures sur 24.
Jamais j'ai été dans un... Je n'ai jamais rien acheté. J'ai jamais acheté de vêtements. J'ai jamais acheté de meubles. J'ai pas de permis de conduire. Je n'ai jamais rien possédé. Rien. Les vêtements que je porte, on me les a donnés. J'ai 72 ans. Je porte encore des vêtements qu'on m'a donnés. Je n'ai rien possédé. J'ai trouvé un moment un boulot qui était une sinécure, et donc cette histoire de marginaux, je me sens à la marche et je ne sais pas. J'ai l'impression de rien foutre. J'ai l'impression de glander. Donc donnez de l'amour à vos enfants, donnez-leur de la force. Aimez-vous les uns les autres et foutez-moi un bordel monstrueux. Tenez bon avec votre putain de greffe. Changez ce monde. Arrêtez de polluer. Arrêtez d'acheter des cochonneries. Et voilà.
T'en rêves. Messianique. Alors, je sais plus quoi dire, Yves. Katia, dans ma tête, ça fait Katia, 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 ses yeux transperçants, son souffle de buffle, ses larges narines, ses ancêtres vikings. On a beaucoup discuté littérature, les deux, celle du Danemark et celle de Joseph Conrad, Typhon et Jim, dans Lord Jim, les nouvelles de la fin, changer de langue. C'est toi qui m'as fait découvrir Conrad, je crois, hein, je m'en rappelle.
Si c'est, bien. C'est bien, alors je pensais... mais
parce on a quitté l'époque d'Apocalypse.
On n'a plus le temps, je continue à penser beaucoup en termes d'esthétique, en termes de pratique générale. Et ce dont je me suis aperçu ces derniers temps, c'est quand on écrit et quand on dessine aussi, on s'attache à des détails, on ne voit pas l'ensemble. Par exemple, là tu viens dire de Katia, je raconte qu'elle a des longs poils sur les jambes et que ça me plaît. Et ça, c'est pour moi, c'est extraordinaire, ça remplit la page, c'est solaire. C'est tellement antinomique de l'idéologie dominante. C'est vrai que je suis un petit morveux et donc je peux me contenter d'une saillie impertinente. Le fait de faire un trait impertinent, ça me fait ma journée. C'est-à-dire, j'ouvre ma boîte aux lettres, le matin, je vois des publicités. Il y a une autre boîte aux lettres sur laquelle il y a marqué « Merci, pas de publicité ». Je mets mes publicités dans la boîte aux lettres où il y a « Merci, pas de publicité ». C'est kikiflup. Je fais un peu mon petit voyou à deux balles et je suis content. Écoute, c'était sympa pour toi d'être venu. C'est sympa aussi que Gilles soit venu. On se revoit mardi prochain, j'espère, avec Pacôme Thielman, qui va venir nous parler de son dernier livre, ce cher Pacôme. Nous l'attendons avec impatience. Merci Gilles, peux-tu nous passer le générique de fin ?
C'était un plaisir, Mr. Torrent.